Patrick, il est dans la surface des TV TCL chez Electrodépôt.
C'est clairement du TCL. 190,5 cm Google TV 4K Ultra HD à seulement 799€. Les prix bas chez Electrodépôt, bien sûr.
Oh, quelle qualité d'image! Oh, il rentre dans la zone avec son caddie!
Oui, il la met sur son caddie et c'est une passe décisive!
Passage en caisse, c'est une TV TCL à seulement 799€ chez Electrodépôt.
Vivez de grands moments chez Electrodépôt en magasin ou sur electrodépôt.fr avec TCL.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
On essaye de faire tourner, comment dire ça, tourner la vapeur, ça se dit.
On a tous monté d'un cran, monté le cursus. Et c'est ça qu'on doit travailler quand tu as bien travaillé l'entraînement et monter le petit cursus pour être le meilleur possible.
C'est franchement un match de fou, un scénario de dingue. Et je suis pas forcément d'accord avec ce que j'entendais de dire que bah, c'est pas forcément florichon un petit peu pour notre Ligue 1.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h53, l'after continue jusqu'à minuit ce soir. L'after en direct sur RMC, en direct sur la chaîne YouTube de l'after-foot. Vous le savez, l'after est votre espace de liberté. À vous tous les supporters, acteurs du monde du foot. Appelez-nous au 32-16. Daniel Riolo vous attend. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Et Manu Petit ce soir avec nous. Manu, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
On va analyser le match Bayern-Real, évidemment, l'actu du jour également, la compo du PSG pour demain à Dortmund. Luis Enrique qui s'est exprimé également aujourd'hui, tout ça jusqu'à minuit avec vous. Le 32, ça s'est ouvert. Direct Studio également dispo, notre messagerie privée à nous, qui vous est à tous accessible, évidemment, c'est gratuit. Vous allez sur les applis RMC, RMC Sport, vous cliquez sur la petite radio et vous pouvez nous envoyer tous vos messages. On va avoir Paulo Breitner et Fred Hermel avec nous également dans quelques minutes. Mais d'abord, les trois points pour démarrer l'after.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Trois points de débat, Daniel, après ce match.
L'impression d'invincibilité que dégage ce Real. Cette surconfiance qui les anime. Le point 2... Malgré tout, je vais peut-être sembler complètement rabat-joie de dire ça, mais une équipe comme le Real, avec son histoire qui joue de cette façon-là, j'ai le droit de trouver que c'est un peu décevant et un peu minimaliste quand même. Et puis le point 3, je ne sais pas si on va parler du PSG et de son match de demain, ou est-ce que je continue en parlant du Bayern, ça rejoint encore... Malgré tout, mon analyse va beaucoup tourner autour du Real, mais ils savent rendre mauvais l'adversaire et ils ont rendu parfois mauvais. Ils provoquent les fautes chez pas mal de joueurs du Bayern qui ont quand même manqué pas mal de percussions à mon sens ce soir, en laissant notamment, je pense, trop longtemps Thomas Müller sur le terrain.
Manu, tes trois points à toi.
Le réalisme du Real, sur leur première frappe, ils marquent alors que le Bayern en était à 7 avec 2 tirs cadrés. Leur première action dans la surface de réparation, leur premier tir, ça fait mouche. Le deuxième point pour moi, c'est le Sud-Coréen qui pour moi a eu un...
Ah, il est rendu mauvais, c'est ce que je voulais dire. En fait, le mec...
Sud-Coréen, pour moi, il est impliqué...
Deux sur deux, quoi.
Que ça soit dans la surface ou même lorsqu'il se fait aspirer sur le appel contre appel de Vinicius. En plus, derrière, il engueule Kimmich alors que c'est lui qui se fait avoir comme un enfant. Le troisième point, je dirais la réaction du Bayern en deuxième période, en l'espace de 3 minutes, ils ont renversé la table alors que je sentais vraiment les affaires partir avec l'eau du bain, tu vois ce que je veux dire?
Les affaires ou le bébé avec l'eau du bain?
Bah pareil, bah
peut mettre le bébé les affaires
exactement,
avec.
Exactement.
Il peut partir avec.
Donc c'est mes trois points, ouais.
Et non pas avec l'eau du boudin.
Ça peut être, comment il a dit, Florichon.
Okay. Florichon, Steve Savio.
Je veux dire que le Real, la défense du Bayern, c'était pas très florichon.
Défense extrêmement lourde, et donc c'est quand même surprenant de voir comment tu te fais prendre sur l'ouverture
du score.
Mais
c'est lui qui est mauvais ou c'est lui qui se fait.
Si son supériorité numérique.
On va en parler.
Kroos, si personne ne l'attaque, il fait un plat du pied et il met sur orbite justement Vinicius.
Ouais. Également, ça dépend de quel côté. Oui, je cherche un peu la petite bête. Et c'est vrai qu'il fait un mauvais match. Mais sur le premier but, tu peux également souligner. Alors, c'est vrai que ça fait un peu école, c'est très académique. Mais l'appel contre appel de Vinicius, il est incroyable.
On est d'accord, mais c'est un truc que tu apprends en formation.
Je sais bien.
Tu te fais avoir dans une position où tu as ta défense qui est positionnée.
Oui, mais Vinicius, d'abord, c'est un attaquant extraordinaire.
On est d'accord.
Le plat du pied de Kroos, il faut le sortir à ce moment-là. Il faut voir le trou. Il faut qu'elle soit parfaitement dosée.
Je ne veux rien enlever à ce plat du pied, mais il a quand même la mer qui s'ouvre devant lui.
Grave.
Il lève la tête, il a un boulevard. Il est juste à la mettre.
D'accord, mais c'est profiter. d'abord, ouais. c'est d'abord techniquement, il faut la doser parfaitement.
C'est Moïse devant la mer rouge.
Elle est dosée. Et même, et la mer rouge, en l'occurrence, Moïse, c'est Vinicius. C'est Vinicius par son appel et son contre-appel qui crée cette brèche. Moi, non mais moi, je veux bien, je m'obstinerai pas si vous pensez que c'est le Coréen qui fait.
C'est un ensemble de choses, mais disons que ça.
Voilà, c'est
ça
un ensemble. Il est rendu mauvais par ce magnifique appel contre-appel d'école. Je suis d'accord avec toi.
Mais ça montre.
C'est basique.
Ça montre
mais
que la défense
c'est du velours.
Bayern n'évolue pas. Alors passe préférentiel.
Mais d'ailleurs, sa réaction
D'ailleurs.
Hakim.
Au Sud-Coréen.
Hakim Min.
Jung, voilà.
Non.
C'est comment?
Kim Minye.
T'as vu sa réaction derrière?
Il a gueulé sur Kimmich.
Non, moi je vois pas qu'il gueule sur Kimmich. Ah, il se gueule même. Sur lui-même.
Non, mais il s'en prend à Kimmich en lui disant c'est à toi de couvrir.
Ils se disent ouais.
Quand les défenseurs sont trop montés.
Min, il se dit quand même j'ai fait une grosse connerie, il le sait quoi.
Non, oui, d'accord. Mais quelque part, il n'y a pas de coordination aussi sur le plan défensif. Quand un défenseur central monte pour accompagner le décrochage d'un attaquant de l'axe, les latéraux, notamment Kimmich, il n'y avait personne dans sa zone, il doit fermer.
Mais je te dis, moi, ce Real parvient à créer, à prendre en défaut, à rendre mauvais l'adversaire en lui en le poussant à faire des fautes.
Aussi, les deux buts du Bayern en l'espace de 3 minutes quand il renverse la table, c'est du copier-coller en fait. Deux joueurs qui rentrent, balle au pied, en percussion, en essayant de dribbler, slalomer dans la surface de réparation, avec trois joueurs qui montent sur lui, et en fait, c'est du copier-coller de chaque côté de la surface de réparation.
Quand t'as de la qualité, qu'est-ce
alors
que
les gars, accueillons Paulo Breitner.
En fait, tu peux mettre en place une tactique. Attends, excuse-moi. Tu peux mettre en place une tactique ultra basique, parce que la tactique du Real, c'est très basique. C'est même, je trouve, pour le Real, un peu minimaliste, genre on attend derrière, mais quand t'as autant de qualité. Qu'est-ce que tu veux faire quand t'as un Kroos remplacé par un Modric qui peut t'envoyer des bons ballons
sortant, hein.
Vinicius, il est capable de t'éliminer deux mecs, il lui en faut deux pour l'arrêter et encore. Bon bah écoute voilà, hein. Qu'est-ce que t'es obligé de t'incliner. En fait, le Real, il te pousse à t'incliner et tu dis vas-y, cherche pas à comprendre, on va le faire.
Je disais donc que Paulo Breitner nous rejoint. Paulo, bonsoir.
Bonsoir mon cher.
Ah, j'ai pas compris que c'était Paulo que t'accueillais.
Que c'était qui?
Mais j'ai pas entendu. Pardon Paulo.
Salut Paulo.
Bon, ton expérience de spécialiste du foot allemand te fait dire que le Bayern a encore des chances de qualif?
Le fait que les buts à l'extérieur ne comptent plus change la donne. C'est-à-dire que tu vas commencer à Madrid sans être éliminé au départ, parce que c'est à la première minute. La deuxième chose, c'est que le Bayern est capable de l'emporter à Madrid. Il l'a prouvé par le passé et ça nous fait encore des rencontres qui sont relativement serrées, parce que tout le monde nous parle du 4-0 d'Ancelotti contre Guardiola en 2014. Mais quand tu regardes les rencontres, c'est toujours extrêmement serré. La rencontre, moi je crois qu'il faut y croire. Il n'y a pas de raison. Je sais pas. On pourrait d'ailleurs faire un débat. J'ai bien aimé ce que vient de dire Daniel sur le Real, parce que j'avais envie de lancer une petite polémique. Vous préférez Harry Kane, Thomas Müller, Moussiala et Sané si vous êtes coach, ou Vinicius, Bellingham, que j'ai pas vu ce soir mais qui sera évidemment Ballon d'Or? Et non mais parce que moi je l'ai vu à Dortmund, hein, donc au bout d'un moment, Valverde, dont je ne sais toujours pas quel est le poste sur le terrain, et Rodrigo, dont on nous explique que c'est pas forcément un joueur de classe mondiale pour le Real.
Le problème, c'est que tu poses une vraie question, mais ce soir, ce que j'ai envie de te répondre, c'est que d'abord, Vinicius est supérieur à l'ensemble des joueurs que tu as cités, ouais. Et pour le reste, ils sont tous un peu décevants. Parce que Moussiala provoque, j'adore ce joueur, mais il donne encore pas forcément tout le temps, quand il faut donner au bon moment. Sané, c'est toujours un peu la même histoire. C'est le gars, il a une fulgurance et puis énormément de déchets. Thomas Müller, très honnêtement, au bout de la mi-temps, moi je le sors.
Il est en fin de parcours.
Je le sors à la mi-temps parce que je comprends, il est là, l'équilibre, la justesse, machin, mais au final, bon, il est décevant. Et de l'autre côté, mais de toute façon, on n'a pas vu un énorme match. Hein,
on
est d'accord.
Ce soir. Donc tu demandes de choisir entre les deux blocs offensifs des deux côtés. À l'arrivée, celui qui fait la diff, il s'appelle Vinicius.
En fait, c'est ce Real. Enfin, je sais pas si Fred est là, mais je parle sous son contrôle.
C'est encore,
ce Real 2023-2024 qui ne veut pas perdre, mais dans ce qu'il propose, on a l'impression que c'est toute une équipe qui bloque défensivement, qui travaille défensivement, etc., qui joue les contres avec Vinicius, qui est un joueur de classe mondiale évidemment. Et donc tout ça à la fin, tu regardes cette rencontre, et moi je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas trouvé que c'était un match extraordinaire de Ligue des Champions. J'ai aussi le sentiment que les équipes qui avaient des temps forts, c'était la West Brom. marquent des buts. Quand elles ont des temps faibles, c'est là où elles réussissent à marquer. Sané, on l'a pas vu en première mi-temps et j'ose même pas penser à sa première occasion qui aurait pu faire peut-être une autre rencontre et qui te marque un but extraordinaire pour l'égalisation. Minier, on a vu tous les problèmes qu'il a au Bayern cette saison et le problème c'est que si tu le remplaces par qui, c'est Upamecano qui a la tête dans le seau, donc c'est un peu compliqué en ce moment. Thomas Müller, on ne l'a pas vu non plus, donc on n'a pas eu un grand match de football, je trouve, mais le football moderne étant si rapide et avec des joueurs de plus en plus techniques, et on se retrouve avec un 2-2 qui pourra faire plaisir à beaucoup de personnes. Mais je suis assez content globalement de la prestation du Bayern dans le sens où Thomas Tuchel a mis, même si ce fut un échec, a mis Müller au départ en jouant 4-4-1 en disant il y a peut-être un truc à faire. Je pense qu'au retour, par contre, Thomas Müller sera sur le banc et qu'on retrouvera Gnabry et qu'on va jouer beaucoup plus sur les contres. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, le Real est très très difficile à battre parce qu'ils ont une forme de mystique autour de cette compétition là qui devient, j'ai presque envie de dire, risible au bout d'un moment, mais ils l'utilisent.
Oui, mais si on s'arrêtait là-bas sur ça deux secondes, sur ce truc-là, t'as pas l'impression que ça leur donne quand même une...
Si.
C'est une sorte de surconfiance qui est assez incroyable, qui est certainement donnée par Ancelotti. Lui, t'as vu, Ancelotti, il en est à dire, moi, je suis là uniquement pour accompagner les joueurs.
Ce qui n'est pas complètement faux au départ, vu l'image qu'il a laissé au passage au Bayern. Mais ça,
oui,
c'est un autre...
Oui, mais il n'empêche que un accompagnateur comme ça...
On peut revenir sur les trois coupes à la suite. Il y en a quand même une, moi je m'en rappelle, où les buts sortaient de l'espace, etc. On ne savait pas trop comment ça revenait. Non, c'est vrai.
Le problème, c'est qu'on ne va pas disserter une demi-heure sur le facteur irrationnel du Real. À un moment, on va peut-être leur attribuer quelque chose de positif. Je trouve que c'est ultra minimaliste. Je ne comprends pas qu'une équipe comme ça propose un tel jeu en mettant un bus.
Je suis pas d'accord avec toi, Daniel. Sincèrement, je suis pas d'accord avec toi parce que il fait avec ce qu'il a sous le coude aujourd'hui.
S'il a sous le coude, il a que des super joueurs.
Que des super joueurs du côté du Real Madrid. Je suis pas d'accord non plus avec toi.
Quand t'es le Real Madrid, quand tu t'appelles Real Madrid, moi je regarde même pas les joueurs.
Il y a des super joueurs au Real Madrid, mais tu me dis qu'il y a que des joueurs, des super joueurs au Real Madrid. Je suis pas d'accord avec toi.
La tradition du Real, c'est jamais de jouer de cette façon.
Oui, quoi qu'il en soit,
le Real Florentino Pérez.
Et j'ai dit,
c'était presque, je préfère perdre avec des étoiles que de gagner en jouant comme ça. Et non, à l'époque, Daniel, Mourinho, il a eu beaucoup de problèmes.
À cause de ça. C'est dans le fantasme du Real Madrid, il faut dominer, il faut jouer. Il faut jouer, c'est comme Manchester United à l'époque de Ferguson.
Pour eux, c'est important.
Oui, c'est peut-être important pour toi, mais Ancelotti, lui, pense à gagner la compétition.
Pour l'histoire du Real.
Non, mais d'accord, mais on s'en foutra, je veux dire, dans 10 ans, s'il gagne la Champions League cette année, on s'en foutra de savoir comment ils l'ont gagné.
Je pense que tu te trompes sur l'histoire du Real.
Non, c'est toi qui te trompes, parce que le Real Madrid, vu les complications, les difficultés qu'ils peuvent avoir sur certains joueurs, et là-dessus, je ne suis pas d'accord avec toi, quand tu dis qu'il n'y a que des super joueurs, non, c'est loin d'être le cas, il n'y a pas que des super joueurs au Real Madrid. Au contraire, la mentalité de cette équipe, elle est exceptionnelle.
Ah oui, c'est ce que je dis.
Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils aient des super joueurs.
Non, alors, je vais te le dire autrement. Que le Real n'ait pas des bons joueurs ou peut-être qu'ils en ont eu des meilleurs, à la limite, moi, je ne le souligne même pas, parce que le Real se doit d'avoir toujours des joueurs. Ça veut dire qu'ils ont planté leur recrutement ou je ne sais quoi. Et ça, ça les regarde. Un club de cette dimension-là, qui a autant de titres, de toute façon, à mon sens, ne peut pas proposer ce football-là. Et dans l'histoire du Real, ils ne l'acceptent pas et Florentino Pérez ne l'accepte pas. Eux, ils acceptent même pas un joueur moche. Donc c'est dire.
Non, mais je suis d'accord.
Il faut être beau, c'est le blanc, c'est la classe absolue en permanence. Quand ils proposent un football comme ça, c'est pas digne de l'histoire de ce club.
Mais avec les joueurs qu'il a, même si son équipe elle est excellente. Il peut pas proposer mieux à l'heure actuelle face à
l'adversité. L'année dernière, il a proposé ça, il a pris une valise contre City.
C'est pour ça. Donc l'intelligence du coach, c'est aussi de revoir sa copie et de s'adapter en fonction des forces qu'il a en présence.
Qui recrute alors
Qui recrute. Je suis désolé, ils vont gagner la Liga et ils ont des orteils à l'heure actuelle en finale. Donc je veux bien qu'ils recrutent et qu'ils reviennent justement à l'ADN du club. Mais jusqu'à présent, je suis plus d'accord avec Ancelotti et ça lui donne raison ce qu'il fait sur le terrain.
Ils peuvent gagner, mais le Real ne peut pas proposer que ça.
Mais c'est marrant parce que j'ai fait une comparaison avec nous en 98 où il y avait beaucoup qui disaient qu'on n'était pas romantique, qu'on était on avait gagné alors qu'on avait fini meilleure attaque, meilleure défense. Il y avait beaucoup qui voulaient réécrire l'histoire en disant que vous n'avez pas gagné avec panache et tout. Mais Ancelotti, ces joueurs, ils s'en foutent royalement de savoir s'ils vont gagner avec panache. Ce qui les intéresse, c'est de gagner le trophée. Ça n'a rien à voir avec ce que tu dis.
Non, mais alors vraiment, Manu, on est en désaccord. 98, ça n'a rien à voir. T'avais jamais gagné, donc effectivement, peu importe. C'est comme le Portugal en 2016. T'as jamais gagné. T'as souvent raté en étant bien, en étant
chouette et tout. Trompe, voilà, parce que les gens disent qu'on ne méritait pas de gagner du monde parce qu'on n'était pas un pauvre vainqueur.
Non, moi je dis pas ça. Je dis que t'avais jamais gagné, donc peu importe comment tu gagnes. Le Real, c'est exactement comme le Brésil en 94 quand il gagne la Coupe du Monde. Ça fait beaucoup de polémiques au Brésil où les gens n'aimaient pas cette Coupe du Monde. Parce que pour eux, ils avaient une autre idée de l'histoire qu'ils devaient proposer.
On va voir ce qu'en pense Fred.
Ils
auraient préféré perdre, mais jouer avec panache, que plutôt gagner, jouer
gagné,
moins
quand
panache.
On a gagné 14.
Quand on a gagné 14,
eux, ils peuvent se permettre le luxe de ranger.
Là, en fait, on parle aux supporters et aux consultants dans les médias. Mais on ne parle pas aux joueurs qui jouent dans l'équipe. On ne parle pas à l'entraîneur, au stade, qui est sur le banc.
Le Real ne joue pas pour les joueurs. Le Real, c'est les socios.
Oui, non, mais
les joueurs sont des employés du
d'accord,
club.
Mais les socios, ça va être le premier à brandir.
Les socios, ils feront la fête. Ils feront la fête, mais eux, ils ont le luxe de pouvoir ranger les coupes d'Europe.
Je suis désolé.
Donc, ils ont le luxe de préférer
le roman de Zidane dans le football. C'est pas le seul chemin pour gagner.
Mais je ne te dis pas ça.
Eh ben, mais tu me dis qu'ils sont en train de renier l'ADN du club.
Oui, ça c'est vrai.
Je suis d'accord.
Ça c'est vrai.
Mais est-ce qu'il peut faire autrement avec les joueurs qu'il a? Tu me dis, ils ont que des super joueurs.
Mais ils ont raté.
Même s'il est toujours excellent, il est vieillissant. Modric, c'est pareil.
Ça les regarde, Manu. Ça les regarde.
D'accord. Mais qui va prendre la relève?
Le PSG qui a jamais gagné.
Il y a que Rodrigo devant.
Il gagne la finale sur un but du cul de n'importe quel attaquant et en faisant un braquage. On s'en foutra complètement. Le Real, ils ont un luxe. Ils ont un luxe de pouvoir choisir. Ils dominent tellement le football que t'as le droit de pouvoir dire cette Coupe d'Europe-là, je l'aime moins que celle, j'en sais rien, de 2002.
Mais les joueurs, ils s'en foutent, et on le sait aussi.
Bon, alors, revenons au Bayern. On a Thomas avec nous au 32-16 qui est supporter bavarois. Salut Thomas.
Salut, bonsoir à tous. Bonsoir Manu, bonsoir Daniel.
On a le droit de préférer l'un à l'autre quand même.
Mais moi je préfère la gagne.
Vu la saison du Bayern.
Ça n'a rien à voir avec les supporters.
Vu le match ce soir, les gars, s'il vous plaît, on parle du Bayern. Est-ce que Thomas, tu y crois encore?
Je préfère la gagne, Daniel.
Thomas, vas-y.
Non mais Manu, Daniel, je vais vous mettre d'accord. Plutôt que vous écharper sur comment est-ce que le Real va gagner, dites-vous que c'est le Bayern qui va gagner. Et comme ça, vous arrêtez votre débat à la noix. Et puis, ce sera beaucoup mieux comme ça. Voyons. C'est compliqué parce qu'à la fois c'est frustrant. Moi qui étais un grand râleur du changement de la règle du but à l'extérieur, là je vais pas faire la fine bouche. Ça m'arrange complètement parce que on va arriver à Santiago Bernabéu, ça va être exactement pareil que il y a 1h45 quoi. Donc malgré tout assez surpris. Alors en fait le Bayern perd sur deux erreurs un peu grossières, n'arrive pas à gagner sur deux erreurs un peu grossières. Assez surpris par le sérieux du Bayern, malgré tout, qui donne un peu cette image d'un Bayern comme face à Arsenal, d'un Bayern 13 années 90, qui joue en contre, qui a un peu des exploits, qui est un petit peu, mais qui manque peut-être juste un tout petit peu de vis. Mais il faut absolument faire rejouer Thomas Müller au match retour pour le but des fesses dont Daniel parlait, mais moi je le prends à la 92e à Santiago Bernabéu.
T'as pas envie de tourner un peu la page quand même là, c'est compliqué hein.
C'est compliqué, pas sur ce qui va se passer sur le scénario qui va se passer au match retour. Thomas Müller pour pas la rencontre.
Oui, voilà.
Il commencera peut-être pas, mais non, honnêtement, surpris aussi par Moussiala, il monte athlétiquement, lui qui a toujours été très bon techniquement, athlétiquement et vraiment en intelligence, il me surprend. Kimmich à droite, il est bien en fait. Hein. Il est bien plus fiable à droite que quand il est au milieu de terrain. Alors certes, il est très technique, mais en fait, il est beaucoup plus sérieux à droite, surtout épaulé par Leimer qui permute un petit peu avec lui. Non, étonné. Et puis en fait, moi j'y crois. J'y crois complètement parce que de tradition, le Bayern fait souvent très très bons matchs à Santiago Bernabéu. Donc j'y crois complètement.
Alors, ils font des bons matchs, c'est pas pour ça qu'ils remportent les rencontres.
C'est souvent des matchs
compliqués. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ensuite, Gilbert, si tu permets, je vais te corriger parce qu'il y a un truc qui me saoule, c'est de dire que le Bayern ne fait pas une bonne saison. Ça va, ils ont 69 points en 31 journées. En Wolfsburg en 2009 et champion avec 69 points, il reste encore 3 journées de Bundesliga. Je veux dire, c'est par rapport au standard qu'on a vu période du Pankus, période Guardiola, et là on est revenu à un Bayern un peu plus normal. Donc et puis on a un Leverkusen qui fait une saison de feu. Donc faut aussi arrêter un petit peu avec ça, de dire qu'ils font pas une grande saison, c'est qu'on est tellement été habitués.
Ça fait 10 ans qu'ils sont champions là.
Non, ils font pas une grande saison.
C'est dingue d'analyser. Mais c'est dingue d'analyser.
Le Bayern ne doit pas être champion des stats depuis 10 ans.
Ça fait 10 ans qu'il est champion des stats. Il a tout écrasé.
Et donc, pour dire qu'ils font une bonne saison, tu dis qu'ils ont de bonnes stats.
Non, mais je veux dire, la Bundesliga, elle commence en 1963. Tu vois, le Bayern n'était même pas là. Elle commence pas il y a 10 ans. C'est-à-dire que cette génération de footix du Bayern, qui sont toujours en train d'analyser ce qui s'est passé.
C'est toi qui me parles de stats. C'est toi qui, pour répondre à une mauvaise saison du Bayern, parle de statistiques.
Mais c'est pas une mauvaise saison du Bayern quand t'as 69 points en 31 journées.
C'est vrai.
C'est dingue. D'entendre des choses comme ça. C'est parce que ça fait 10 ans.
C'est une très bonne saison de se faire sortir par une troisième division.
C'est pas arrivé dans l'histoire du Bayern.
Mais c'est une excellente saison, tu le sais même pas que c'est déjà arrivé.
Et quand tu perds tes matchs, c'est insupportable dans son sens. En fait, vous dites, il tombe
sur un Leverkusen qui est stratosphérique.
C'est dingue d'entendre ça.
C'est comme 2017 quand t'as l'année incroyable où Monaco est champion avec un nombre de points de malade et le PSG avait fait une excellente année, tout comme Nice d'ailleurs cette année-là. Bon, t'as des années comme ça où t'as une équipe qui est sur une autre planète. C'est le cas de Leverkusen.
Thomas a le droit de considérer que si son équipe n'est pas championne.
Mais parce que les standards aujourd'hui, c'est les 10 dernières années.
C'est son droit.
Le Bayern, c'est champion une année. Avant, c'était champion une année, pas l'autre. C'était 1/2 la moyenne. Ces dernières années, ils ont pété complètement cette moyenne en faisant des choses encore plus folles. Mais demi-finale de Ligue des Champions, se faire taper par le Real, enfin s'ils se font taper d'abord, et deuxième derrière un Leverkusen qui entre dans l'histoire pour la première fois de son existence.
Bah, dis-moi Apollo, le Bayern va changer d'entraîneur.
Ouais, voilà quoi.
Oui.
Bon, c'est donc qu'ils considèrent que...
C'est quoi le rapport?
Quel est le rapport?
Si t'as fait une bonne saison statistique, pourquoi tu changes d'entraîneur?
Et pourquoi ils ont changé Nagelsmann? Il avait perdu combien de matchs dans la saison?
Non, mais moi j'avais une question à Apollo, c'est plus sur le jeu. Hein.
Méfie-toi, il est chaud là.
Ouais. PSG en 94, tu verras Arthur Georges champion. Hein, et c'est pas du luxe d'être champion.
S'obstine à faire jouer Kimmich à droite. Hein.
Bah parce qu'il est meilleur déjà au poste d'arrière droit qu'au milieu de terrain.
Ça fait trois ans et demi
qu'il y a un problème avec Joshua Kimmich. Tout le monde oublie qu'en 2020, lorsqu'il remporte la Ligue des Champions, il joue au poste d'arrière droit parce que Pavard est blessé, il joue pas au milieu de terrain. Toutes ces choses-là fait que Joshua Kimmich est critiqué en Allemagne depuis des années sur ce poste de numéro 6 parce que c'est pas un vrai numéro 6. Et le dindon de la farce à chaque fois, c'est Goretzka parce qu'il doit compenser les erreurs de Joshua Kimmich. Donc en fait, Joshua Kimmich, Thomas Tuchel, avec son style à lui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, a décidé de replacer Kimmich au poste d'arrière droit. Nagelsmann d'ailleurs fait jouer aussi maintenant.
Il a eu ses plus grands succès.
Bah bien sûr.
Kimmich, ses plus grands succès, ses plus grands matchs, c'était fini. Moi, je l'adorais au milieu, mais c'est l'arrière droit
au milieu, de vous à moi.
Oui, mais c'est l'arrière droit qu'il a eu le plus gagné, qu'il a le plus.
J'ai l'impression qu'on n'exploite pas ses qualités, que c'est un joueur de.
Arrière droit, il a été très fort. Hein. Quand ils sont en 2020, c'est quoi? Il y a Thiago Alcantara, Goretzka. Lui, il vient beaucoup dans le milieu de terrain.
Oui.
Mais il est quand même à droite. Hein.
Bref, voilà, c'est une question parmi tant d'autres. Hein.
Thomas, un truc à rajouter?
Alors, je suis content d'entendre Polo être d'accord avec un footix du Bayern que Kimmich est meilleur à droite, pour commencer, puisque c'est exactement ce que j'ai dit lors de ma présentation.
Juste
pour finir, oui, je sais, Polo, merci en fait. Juste pour finir, le Bayern a l'occasion de racheter sa saison parce que c'est pas qu'une histoire de titre, c'est que surtout le Bayern n'a aucun fait marquant cette année, n'a pas de match marquant, contrairement aux années précédentes où le Bayern fait de grandes saisons, peu importe les statistiques, sur les grandes saisons du Bayern, on se souvient de grands matchs. Là, les grands matchs qu'ils auraient dû faire quand ils perdent 3-0 à Leverkusen, quand ils perdent 2-0 à Dortmund, quand ils sont à 2 points de Leverkusen et qu'ils ont l'occasion de revenir, et bien à chaque fois, ils paument ces matchs-là. Ils ont raté ces rendez-vous, c'est ça qui, moi, me fait dire qu'ils ne font pas une grande saison, parce que un grand Bayern est capable de faire de grands matchs. Ce n'est pas ce qu'on a vu encore cette année. Ils font un très bon match à Arsenal, ils font un bon match, à mon sens, ce soir. J'attends et je pense que c'est complètement jouable pour le Bayern d'arriver en effet en finale. Et puis après, une finale ça se gagne, surtout si c'est contre Dortmund ou Paris. Peu importe le club, si jamais le Bayern arrive en finale, il faut la gagner.
Merci Thomas.
Merci à vous et bonne soirée.
Salut Thomas, à bientôt pour reparler du Bayern. Deux annonces importantes. Déjà, l'expérience RMC. Vous savez que mardi prochain, le PSG joue donc Dortmund en demi-finale retour au Parc des Princes. Et on vous offre l'expérience RMC, c'est-à-dire visite des studios de RMC avant le match, le match au Parc des Princes avec la personne de votre choix. Et puis retour après à RMC après le match. On n'est pas très loin du stade, hein, donc vous verrez ça. En fait, il suffit d'être attentif dès que vous entendez ça. Et ben vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG par SMS au 732-16 pour vous inscrire. Voilà, ce sera l'expérience RMC. On vous offre tous les places pour le match, la totale. Donc soyez attentifs, ça peut tomber d'ici minuit. Et puis j'ai quand même une autre annonce très importante, Daniel. Manu Petit fait ses débuts sur les réseaux sociaux.
Ah oui. Est-ce que c'est important ça
Manu Petit sur Instagram, le vrai Manu Petit, pas les faux. Il y a peut-être d'autres homonymes, peut-être.
C'est important. C'est important.
Bon, ouais. Alors c'est important.
Abonnez-vous au compte Insta de Manu. Emmanuel underscore.
Ça fait un petit mois. Manu dans la cuisine, officiel. Manu dans la salle de bain, Manu dans la chambre à coucher, Manu sur la moto.
C'est ça, oui.
Des vidéos.
Oh la Ticos.
Je vais déjà suivre parce que moi je suis de plus en plus à Instagram.
Ouais, moi aussi je suis Manu.
C'est quoi, Rodi?
C'est parti.
Emmanuel underscore. Alors, petit.
Emmanuel
underscore officiel. Pourquoi c'est si compliqué? Tu veux pas mettre Manu Petit tout court, hein.
Emmanuel.
Manu qui l'arrête, celui-là.
C'est Emmanuel ou Manu?
Je sais pas. C'est quoi underscore? C'est quoi?
Bah, c'est le truc du bas là.
Ah ok.
Emmanuel Petit officiel.
Oh, je l'ai trouvé direct.
Moi aussi. 1078.
Oh là là.
Seguir. Alors c'est ouais, parce que seguir ça veut dire suivre en espagnol.
On va expliquer à Manu ce que underscore.
Tu vois, t'as intérêt à l'alimenter parce qu'on est tous en train de s'abonner. Parler
du match là.
Ouais. Alors former football player 1998 World Cup champion.
European champion. Alors Fred Hermelsès te suit, c'est moi. D'accord.
Excuse-moi, c'est quoi passionnate analyste?
Oh putain, vous arrêtez de me casser les bonbons. Les deux, là.
On va regarder parce que là t'as 1079 suiveurs. On va regarder là, t'as dû exploser là. Mais ça va vite,
Manu, on est avec toi, t'inquiète pas,
on fait quoi là parce que.
On fait 1563, ça y est,
oh là là, ça explose. On fait la pub. Dans un instant, on continue l'analyse avec Polo, avec Fred.
Pendant la pub, t'étais pas rendu compte?
A tout de suite dans la fin.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h22, Daniel Riolo est là, Emmanuel Petit est là, Paulo Breitner est là, Fred Hermel est là également. On dira casting de rêve pour analyser ce Bayern Real. Le 32-16 est ouvert, on vous attend. Messieurs, dames, Paulo nous a dit ce qu'il a pensé du Bayern. Fred, qu'est-ce que tu nous dis sur le Real ce soir? Est-ce que tu considères, de ton, toi aussi je te pose la même question qu'Apollo, de ton duo de tes 40 ans de football espagnol, que ça va le faire, ils sont en finale?
Non, je ne sais pas. Non, j'ai beaucoup de mal à lire ce match. J'ai pas pris beaucoup de plaisir. J'ai eu l'impression qu'il n'a jamais vraiment démarré. Tu vois qu'il n'y a pas eu un moment. Je me suis dit après le deuxième but du Bayern, ça y est, le Real va y aller à fond. Mais même le Real, c'est pas lancé à fond. Les changements de Carlo étaient bons. Intéressant de voir qu'il a sorti Bellingham quand même. Hein. Mm-hmm. Il a laissé Rodrigo sur le.
Mais
sur
la pelouse aussi, il est sorti fâché.
Ouais. Après Kroos, il a plus l'habitude d'être remplacé par
Modric. Oui, généralement,
par
il se prenait un peu. Ouais, c'est un peu Bellingham ça. Est censé être
mais Bellingham,
la star de l'équipe. On est d'accord plus globalement sur... parce qu'on l'a vu au tour d'avant.
Il n'est pas grand-chose.
Pas éblouissant.
Hein.
Non, pas... Pour l'instant, c'est un joueur de première partie de saison.
Bah,
où il a été étourdissant.
Ouais, bien sûr.
Mais là,
il faut assimiler tout ça, il faut digérer tout ça. Mais
moi, je parlais tout à l'heure avant que tu arrives d'un Real très minimaliste, qui, par rapport à Manu, n'était pas d'accord. Enfin, c'est pas sur ce point-là. Je ne veux pas te dire qu'il n'était pas d'accord. C'est sur autre chose.
Il
n'y
avait pas qu'une seule façon de gagner des matchs.
Dans l'ADN du Real, je pense pas que les supporters du Real soulever la coupe, ça va les faire kiffer, mais bon, ils en ont vu des plus beaux des Real. Hein, quand
oui,
même.
Ils en ont vu des plus moches aussi. Donc, oui, notamment avec Capello, et en gagnant le championnat, il était viré il juste derrière. Viré.
Ben, c'est ce donc, que je voulais voilà, expliquer. Oui, Manu, ça. Au Real, on rigole pas avec ça.
Non. Mais après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le choix de D'Ancelotti était clairement défensif. Je veux dire, à partir du moment où tu mets...
Il a fait la même contre City.
Mais voilà, ouais, non, mais là, c'était...
Autobus, transition. Voilà, autobus, voilà. Autobus, et transition. On rigolait du PSG l'année dernière quand on disait la tactique, c'est tout pour Kiki. Ouais. Bah là, c'est tout pour Vini.
C'est pour Vini. Mais alors après, il y avait une manière de vouloir goûter ce Bayern. De savoir vraiment, de pas faire de folie et de le goûter ce Bayern. Bon, après, il y a le but. Et qu'est-ce que tu vas faire? T'es en demi-finale de Ligue des Champions. Tu mènes 1-0 à l'extérieur sur la pelouse du Bayern.
Sur ta première action.
La première fois où un joueur du Real recevait le ballon dans la surface. Je veux dire, après tu vas pas attaquer comme un malade. En fait, ça a mis le Real dans la même situation qu'à City il y a 15 jours en menant d'abord. Et le Real s'en est contenté. Après, moi, je trouve que le résultat est merveilleux parce que la semaine prochaine, ça va être top. Je veux même vous dire, moi, un 2-1 pour le Bayern, j'aurais aimé. Parce que ça aurait, tu vois, ça a obligé le Real à attaquer la semaine prochaine. Donc, ça n'a pas été un grand match. Peut-être que ça sera au retour. Mais, je trouve qu'il y a, alors Vini est extraordinaire encore une fois. Je trouve que globalement, Bellingham n'est pas l'élément différenciateur qu'il était en première partie de saison. Ouais, j'ai du mal à analyser ce match. Vraiment, je me dis que le Real s'en sort bien finalement.
Est-ce que tu arrives encore à être étonné par leur côté invincible? Mange la tête de l'adversaire à lui envoyer le message que tu me battras pas.
Ouais.
On est mauvais, tu me battras pas. Ouais. On va jouer en bas.
Non, ça m'étonne plus parce que je l'ai vu trop de fois. Mais là où c'était très fort, c'est après l'ouverture du score du Real.
Quelle arrogance.
Mais ça fait 25 ans que je suis le Real, je vois tous les matchs, je veux dire. Et en fait, ce qui s'est passé, je trouvais que c'était même désespérant pour ces joueurs du Bayern. Et alors, il faut féliciter Tourelle pour les changements tactiques qu'il fait après la mi-temps, parce que c'est ça qui bouscule un petit peu. Mais sinon, après, tu avais une sorte de L'Oréal qui jouait à la baballe, et quand le Bayern avait la balle, il n'y avait pas d'espace. Je veux dire, faut quand même voir que défensivement, c'est en train de devenir une équipe hyper dure à bouger quand même. Hein.
Ah bah quand tu descends le bloc aussi bas et qu'il n'y a pas que tes défenseurs qui défendent, mais toute l'équipe avec un Bellingham qui jouait 6, dur de les prendre en défaut, sûr.
Mais après
le seul truc, c'est de savoir jusqu'à quand ça peut tenir en jouant de cette façon, en ne comptant que sur une accélération de Vinicius. S'il arrive à le faire, ils gagneront encore une Coupe d'Europe. Ouais. Hein, parce que derrière, surtout s'il récupère en plus
Mbappé.
Non, je parle pour d'ici la fin de saison, s'ils arrivent à remettre derrière Militao.
Oui, alors ça va être dur, mais peut-être pourquoi pas peut-être.
Avec Camaral.
Ouais, Camaral, il sera le retour, il était suspendu ce soir.
Avec les barres derrière là, ça va être compliqué. Ouais. Ça va être
c'est pas grandiose, mais il y a
c'est efficace.
Non, mais ça fait pas rêver, sauf que bon, la passe de Kroos,
pas la nuit.
La passe de Kroos et Vinicius. Alors moi je me faisais la réflexion, je veux dire, vous vous souvenez cette fameuse phrase un jour que j'avais en commentant depuis le Bernabéu, Vinicius, qu'il est con ce Vinicius, mais qu'est-ce qu'il est bon aujourd'hui? C'est-à-dire, vous vous souvenez du nombre
aujourd'hui, c'est pas qu'il est bon, c'est le sauveur de l'équipe, c'est lui qui tient.
Mais tu as vu le nombre de buts qu'il a manqué comme ça face au gardien, là comment il est d'une sûreté, enfin je veux dire c'est impressionnant.
Il y en a qui très bien s'en inspirer du côté du Bayern, c'est Sané.
Ah, on parle pas de la même chose en termes de
mental. Dans la finition, ce soir il a Vinicius, la possibilité de faire un triplé ce soir.
Vinicius, on est vraiment sur le joueur qui a progressé, qui effectivement était un tout droit amélioré, je sais pas, un peu bêta, et qui est devenu un joueur. Sané, je pense qu'il a, pourtant Sané, il a été dans les mains de Guardiola. C'est dire si même avec Guardiola, il a pas réussi à lui visser la tête. C'est dire si ça doit sonner le creux dedans.
D'ailleurs, sur la première occasion où il se présente en face à face dans un angle fermé, il préfère tirer sur le gardien de but alors que Müller qui est libre de tout marquage quasiment, il a juste à faire un plat du pied, c'est le 1-0.
Il est pas intelligent. Comment on le traite en Allemagne, ce gars-là?
Ben c'est en fonction de ses performances sur le terrain.
Ouais, mais globalement on dit c'est pas un joueur intelligent, c'est un joueur capable de fulgurance.
C'est le joueur de fulgurance et en fait il devient malheureusement le facteur X de l'équipe. Et si, quand il fait une belle rencontre, tu vois, la première mi-temps est dramatique de Leroy Sané. Et comme par hasard, c'est compliqué pour le Bayern. Et à partir du moment où il égalise, ça change beaucoup de choses en deuxième mi-temps. Mais regardez le match contre Arsenal. Ça change complètement. Et Leroy Sané, en fait, on devrait parler d'Harry Kane, de ses nombres de buts, etc. Et on devrait parler de Moussiala qui prend le jeu. On pourrait même encore parler de Thomas Müller avec son style de jeu, etc. Mais celui qui fait qu'on a un bon ou un mauvais Bayern, c'est Leroy Sané. Et c'est problématique pour le Bayern.
Parce que je sais pas si c'est une bonne nouvelle, Polo. Hein.
Ah non, mais le problème, c'est qu'en fait, ils savent même pas dans les bureaux savoir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on le largue ou est-ce qu'on le prolonge? Donc c'est parce que chaque année c'est ça. Dis, ah ouais mais regarde, t'as vu le Leroy Sané qu'on a vu au mois de septembre octobre, c'est génial quand il est comme ça.
Mais puis, qui va prendre ce joueur? Attends, le problème c'est qu'il a encore une fois il vraiment. A, il moi, parfois tourné, il m'a fait kiffer, mais il a un profil finir en Arabie Saoudite. Hein.
Bah c'est fort possible, oui. Mais c'est très délicat.
C'est dur de miser sur un joueur qui est aussi peu fiable, qui est capable de faire gagner un match et d'en rater 10, quoi.
Mais ça fait des années qu'on le... Ils l'ont récupéré à l'époque de City parce qu'ils pouvaient le faire financièrement et qu'il n'était pas indiscutable à Manchester City. Puis comme il était allemand, évidemment, ça aide le Bayern. Mais c'est ça, Leroy Sané. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il n'est pas au niveau de Sancho, hein. Sauf on va le dire quand même. Il y a une petite différence, mais le
en termes de quoi tu veux dire?
Ben Sancho, le Sancho que j'ai vu entre 2017 et 2021 et celui de maintenant, enfin, c'est plus possible, quoi.
Ah, en termes d'irrégularité, tu veux dire?
Ouais, c'est pas possible. Ouais.
Alors, les gars, dans un instant, on va revenir au Real. Lucas sera avec nous. On fera l'évaluation ensemble également. Bougez pas.
Je peux dire une petite chose?
Bien sûr, tu peux.
Nadal a perdu son pouvoir. Parce que Nadal qui joue à Madrid le soir d'un match du Real, ça c'est du jamais vu. Il ne contrôle plus le tournoi, mais
c'est lui qui l'a demandé. Il paraît que c'est lui qui a demandé. Il avait besoin de jouer le soir.
Ouais, il voulait récupérer plus.
Ça c'est l'excuse. Bizarre.
Non, c'est lui
ou
qui
alors
a demandé.
Il était sûr que le Real ne
pouvait
pas.
Il pouvait pas parce qu'effectivement lui normalement il veut voir le Real. T'as raison. Mais en fait il a vraiment eu besoin de jouer le soir. Il lui fallait le max de temps possible.
Eh ben, c'est plus que c'était.
Ah non, c'est plus que c'était.
Nadal qui joue au tennis pendant un match du Real.
Ah, on le sait que c'est plus que
ça. Là, c'est vraiment le signe de la fin.
Surtout que dans le tournoi de Madrid, ça a dû arriver que le Real joue en même temps.
Mais surtout, et qu'il allait au match.
Absolument.
Il jouait le match. Il mettait 2-7 tout de suite au rival pour aller à travers le match.
C'est vrai. Allez, à tout de suite dans l'after avec l'évaluation de Bayern Real.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici au kiosque à Pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, bougez plus.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h33, Daniel Riolo est là, Manu Petit est là, Paulo Breitner aussi, Fred Hermel également. Lucas, supporter de Real avec nous avant l'évaluation. Lucas, bonsoir.
Bonsoir Gilbert.
C'est Lucas. On t'entend pas dans le studio, je crois. Paulo, notre réalisateur, va régler ça. Est-ce que tu es là, Lucas?
Ouais, je suis là, je vous entends.
Bon.
Ah oui, je vous entends.
Ouais, c'est bon, on t'entend aussi.
Ah, parfait. Bon, bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel et mention spéciale à Manu Petit.
Bonsoir.
Il nous a fait plaisir en 98.
C'est gentil.
Voilà, merci. Comme dirait Jérôme, t'es le meilleur joueur de la finale.
Oh non, là. Non, de la Coupe du Monde, de toute la Coupe du Monde.
De toute la Coupe du Monde, même, je dirais.
C'est
ma première, les gars, donc soyez sympas.
Ne t'inquiète pas, c'est pour ça que t'es si gentil. Chez toi, t'es à la maison.
C'est pour ça que t'as vu comme il est gentil.
Et moi, tu me dis pas bonsoir.
Non, toi, il s'en fout.
Ouais. Le mec, il s'en fout. Ah, il me dit pas bonsoir.
Attends, Fredo, c'est la famille.
Ah bon, ça va.
C'est pour ça.
Bon, t'es content?
Bonsoir, Fredo. Ah, bien sûr que je suis content. Voilà, moi, je voulais intervenir. En fait, les gars, c'était juste pour défendre un peu Manu, parce que Manu, il a totalement raison. Parce que le Real, c'est une équipe qui joue en fonction de l'adversaire. Et surtout, Ancelotti, c'est un coach qui a de la mémoire. Il se rappelle qu'il a joué contre Tourelle, c'était quand Tourelle entraînait Chelsea. Et on s'est fait éliminer en demi-finale au retour par Chelsea.
C'est vrai.
Voilà.
Et donc, quel rapport,
en fait, voilà,
rapport,
le scénario était simple. Il ne voulait pas perdre de match.
Ah ouais, ben merci de nous le dire. Parce que là, vraiment, tu vois, à un moment, je me suis dit qu'il était venu pour perdre. Tu vois, c'est vraiment là. J'attends là vraiment. Va falloir que t'enchaînes sur quelque chose.
Non, mais c'est vrai que
ça va falloir que t'enchaînes sur quelque chose d'un peu plus costaud quand même, parce que là.
Daniel, là où t'as raison, c'est que une équipe comme le Real ne peut pas se permettre de jouer comme ça. À un moment, le Real.
Merci, c'est tout. C'est tout ce que j'ai dit, moi. C'est tout.
Voilà. Mais en fait, là où moi je voulais intervenir, c'est que le Real n'a pas d'équipe cette année. À part la ligne offensive.
Ah, mais d'après Daniel, il n'y a que des super joueurs.
Non, moi je te dis d'abord, il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe.
Il y a des bons joueurs.
Que le Real, moi ce que je vous ai dit, je le répète, que le Real n'est pas des cracks ou ceci ou cela, moi je m'en fous. Un club de cette dimension avec cette histoire, doit avoir des beaux joueurs de foot. D'ailleurs, ça a toujours été la tradition que ça brille, qu'il y ait des beaux joueurs de foot, que ce soit la classe étalée aux yeux du monde entier. Moi, ils se démerdent hein, s'ils ont des joueurs un peu moins forts cette année, s'ils doivent jouer avec Lucas Vázquez arrière droit. Je dis juste qu'au final, le Real, je trouve que c'est un peu triste de les voir offrir un tel football. Ça n'est pas dans la tradition et dans l'histoire de ce club. Voilà.
Bon, mais on verra la semaine prochaine.
Enfin, l'histoire. Dans les années 80, c'était tellement horrible au Real qu'il y a eu des moments d'histoire terribles hein, aussi.
Non, mais on verra la semaine prochaine.
Oui, oui, merci de le rappeler, Daniel.
Mais c'est important. Alors, dans je vais le dire autrement, Polo, et ça va te plaire. Parce que le foot, c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Dans le marketing et dans la tradition vendue, le Real ne peut pas proposer ce genre de football.
On est d'accord.
Voilà. Comme Manchester United, qui pendant des années avait des équipes où ça s'abattait, ça, hein. Néanmoins, ils ont développé une histoire, le théâtre des rêves, le beau jeu. Manchester United se traîne, au Bayern aussi.
Les derniers, Bayern qui était considéré comme le club le plus cynique. Le plus cynique, on nous explique depuis quelques années, notamment les éléphants, Ernest, Rummenigge, mais il faut absolument un joueur qui joue merveilleusement bien, il faut faire du spectacle, il faut faire ceci. Mais c'est pas l'histoire du Bayern. Les années 70, quand ils gagnent la Ligue des Champions, c'est pas forcément la meilleure équipe qui l'emporte. Hein. Ouais, le spectacle, il n'est pas là. Et le Real, moi, évidemment, j'aime beaucoup le Real. C'est avec Fred, en plus, ça me permet de discuter avec Fred. Mais la question de dire le Real, c'est toujours merveilleux. Ah bon ?
Bah non.
Putain, alors là, je suis vraiment vieux. Parce que les années 80, quand je les ai vus, ça va, quoi. Hein.
Moi je te parle de la tradition vendue quand Capello est champion et qu'il le vire. Quand Mourinho ça se termine mal et qu'il s'accroche avec ses derniers défenseurs dans les médias et tout, Mourinho à la fin plus personne n'en pouvait parce que le Barça offrait du beau football et le Real n'avait pas le droit d'offrir un moche football par rapport à un Barça qui étalait sa classe aux yeux du monde entier. C'était très mal vécu. Ça fait le storytelling et le marketing, ça existe dans le foot. Ça existe dans le foot depuis des années. Nantes vendait un beau football, Saint-Etienne un football ouvrier. Ça a toujours existé. Les traditions, ça existe.
Et peut-être une des plus belles équipes de l'histoire du Real, la Quinta del Buitre. On n'a jamais gagné la Ligue des Champions.
Bien sûr.
La Copa des Européens, la Coupe d'Europe.
Et pourtant, tout le monde en parle avec émotion.
Avec émotion,
bien sûr. Avançons, les gars. Je signale que Polo Breitner, qui a lâché un punaise il y a quelques instants, fait son entrée dans la cagnotte.
Punaise, c'est rien.
Mais il n'a pas dit punaise, justement. Je ne vais pas le répéter.
Punaise de lit.
Tu m'as compris.
Je ne dis pas de gros mots.
Si, tu l'as dit un petit, là. J'ai entendu. Un petit tour dans la cagnotte.
Comment on dit gros mot en allemand?
Scheiße,
c'est merde. Un gros mot, comment on dit ça en allemand, tiens?
On dit pas gros mot en allemand.
Attends, c'est une excellente question, ça.
Lucas, tu es toujours là? Oui. Évaluation avec toi, qui t'a plu au Real ce soir, qui t'a moins plu? Homme du match,
comme d'habitude, les deux Brésiliens devant, hein, donc Vinicius qui est décisif, encore une fois, et aussi Rodrigo. Celui qui m'a moins plu, bien évidemment, comme Polo, là où je donne raison à Polo, c'est Bellingham. Hein.
Bah oui.
Ça fait plusieurs grands matchs que finalement on ne le voit pas, sauf à part le Classico contre le Barça où il a marqué des buts, mais il n'a pas fait
la dernière minute, quoi.
Voilà. Donc,
non, il fait plutôt un bon match.
Voilà, il fait plutôt un bon match, mais il est tout le temps défensif. Moi, j'ai remarqué qu'il passe son temps à défendre.
Ce soir, il a joué 6.
Oui.
Voilà, il joue 6, il est même à côté, des fois il est à la place de Kroos ou à la place de comment ça s'appelle, Valverde. Donc je comprends pas trop en fait la forme actuelle de Bellingham, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est physique.
Il faut digérer. Enfin, c'est encore un très jeune joueur qui arrive dans un grand club. Il réussit tout de suite. Après, un jour,
il faudra faire la liste. Vers le mois de mai, on prend du temps un soir et on fait la liste des joueurs qui sont bons sur toute une saison. Tu vas voir que ça va pas être la liste. Ça va pas être.
Oui, non, mais
c'est pas possible. La liste, ça va pas être longue. La liste des joueurs qui sont bons de septembre à mai.
Oui. Daniel, s'il te plaît, toi qui connais l'histoire de la Ligue des Champions, tu sais que les grands joueurs, ils sont entendus dans des matchs comme ça.
Absolument, absolument.
La saison 2022, pourquoi tout le monde parle de Benzema?
Benzema,
on a l'impression que tous les matchs, c'était lui.
Oui, bien sûr, je suis d'accord
avec toi. Quand
Ronaldo
était là, vous vous souvenez de Ronaldo? On a pris contre Wolfsburg, on a perdu 2-0. Au retour, il a promis qu'il avait fait 3-0. Mais il a marqué les 3 buts.
Tu as parfaitement raison et je vais même te dire que...
C'est pour ça que l'année prochaine, le Titi de Bondy, on le veut. Que des matchs comme ça, c'est pour lui, parce qu'il a de l'orgueil. Parce que lui, il se cache pas. Vinicius, ouais, il est un peu comme ça. Le problème, c'est que Vinicius, il n'est pas assez décisif. Enfin, décisif dans le sens où il ne marque pas beaucoup de buts.
Ah, non, je sais pas ce qu'il te faut de plus.
Non, il est décisif. Mais il marque pas beaucoup de buts. Il a marqué 7 buts.
Tu sais, Vinicius, combien il a marqué de buts en Ligue des Champions?
C'est le meilleur buteur, non?
Il a joué 54 matchs.
Oui.
Il a marqué 20 buts. Et sur les 20 buts, il y en a 10 dans les matchs à élimination directe.
Ah oui, c'est ça qui compte.
C'est-à-dire qu'il y en a 10 en phase de groupe, mais 10 en matchs.
Je te dis, la liste des joueurs qui sont bons toute une saison, c'est rare. Et quitte à ne pas être bon du début à la fin, le grand joueur, c'est toi qui l'as dit, je suis d'accord avec toi. Et c'était la grande spécialité du Real à une époque, Ramos et toute sa bande, c'était d'être bon de février à après.
Ah oui. Et voilà. La préparation physique a été
pour c'est faire. En gros pour faire une sorte d'analogie Tour de France la première semaine et puis quand ce moment ça va être costaud c'est là qu'on voit les bons quoi.
Mais
et
Zidane ça
merci Lucas ça a été bon, merci à vous.
Je veux dire un dernier mot. Je suis avec ma fille qui joue au foot. Et donc, je voulais lui faire une dédicace. Elle s'appelle Naomi. Elle se reconnaîtra.
Bah, très bien. On l'embrasse.
Voilà,
bisous à Naomi. Ouais. Voilà, et profite, il n'y a pas école demain.
Bisous.
Elle a un très joli prénom.
Salut Lucas, à bientôt.
Voilà, merci à vous. Merci. Ciao.
Rappelle-nous quand tu veux. Alors, évaluation allemande également, Polo. Il y a quelques joueurs dont tu veux parler, dont on n'a pas parlé. Je ne sais pas, en bien, en mal. Tu peux y aller.
Défense centrale, il faut que De Ligt revienne. Quoi. Ça va être compliqué sinon. Moi, je pense que le Real va passer sur la double confrontation parce que techniquement, je le trouve quand même supérieur aux Bavarois, en tout cas cette génération-là. Ça me fait mal pour lui, Minier, parce que j'aime beaucoup ce joueur-là, mais on a perdu Upamecano, on a perdu Minier. D'ailleurs, c'est pas la sécurité, même s'il devient à force d'avoir des absents autour de lui, il va devenir finalement le meilleur défenseur central du Bayern. Non, c'est ça, c'est là-dessus. c'est ce qui m'embête un peu ce soir, quoi. Le Bayern, en fait, moi, je m'attendais à un match comme ça. Alors, je suis comme Fred, hein, j'ai la même analyse que Fred. C'est pas un grand match. Il y a pas de choses extraordinaires. Il se fait que le football moderne va super vite, donc il y a des buts, etc. Mais le match retour, je pense, va être passionnant à regarder.
Moi, j'aimerais que ce que vous dites soit vrai, mais je sais pas. Ce Real me donne tellement l'impression d'anesthésier les adversaires que je n'arrive pas à y voir du suspense. Je souhaite me tromper, mais je n'arrive pas. Cette équipe rentre dans la tête, et t'as l'impression que même quand l'autre mène, à un moment ou un autre, comme ce soir, 2-1, tu te dis ça peut se terminer comme ça.
Ça peut même se terminer 3-1.
Et au mieux un 3-1 s'il y a une balle de contre à jouer. Mais non, il faut qu'il y ait une passe, une faute, parce qu'il provoque les fautes des autres. Je sais pas, je n'arrive pas à y voir du suspense pour le retour. Je suis désolé.
Moi je suis.
Il y a souvent du spectacle à Madrid. Hein.
Par contre, moi je vois très bien le Real être mené à Bernabéu. Hein. Et c'est là où ils sont les meilleurs.
Je suis pas d'accord avec Polo. Hein. Moi je pense que le Bayern a une belle carte à jouer. Hein.
Bien sûr.
Ouais, il a pas dit.
Ah bah oui. Polo. Mais j'ai pas dit que.
Il vient de dire qu'il voyait vraiment Madrid passer parce qu'il était supérieur sur le plan technique, qu'il y avait quand même des joueurs qui étaient loin d'être satisfaits.
Oui, mais j'ai pas dit que le match n'était pas passionnant. Mais je dis à la fin, le Real va sûrement se qualifier. Ouais, mais je vois bien un 2-1 avec but du Bayern, c'est pas la première. But du Bayern et après ils perdent 2-1 par exemple. Mais voilà.
Un mot de Turpin ?
Match Turpin.
Bien. Bah, on en a pas parlé donc bien.
En Ligue des Champions, Turpin, c'est en Ligue 1.
Après, il y a un truc bizarre quand il signale le pénalty. Il plonge pas bien le bras.
C'est sa façon de faire ça.
On ne savait pas si c'est un pénalty ou si c'est.
Turpin, il est comme ça. Il se fige, il se plie.
C'est l'interprétation arbitrale.
Mais non, mais moi, je trouve que le bras, il est bien en bas.
Il a un style.
Pour bien montrer.
Les arbitres ont un style et Turpin, il cultive le sien.
Alors, Turpin, il y a quand même un truc. Il faut qu'il sourie un peu quand même.
Non, il veut pas parce qu'il est trop sérieux.
Arrête de faire ta tête de méchant là.
Vous êtes bien
placé pour le dire, vous.
Nous, on sourit, nous. On
connaissait des arbitres dans le football moderne aujourd'hui qui sourient.
Il y en a plein.
Au très haut niveau.
Oui, exactement. Regarde, en France, assez peu.
Benoît Millot, l'ancienne génération des Vautrouvers et compagnie, oui, ça souriait souvent sur le terrain.
Ça met un petit sourire et puis il n'y a plus de décision, ça passe mieux.
Parce que le football est trop sérieux.
L'anglais chauve, là, souvent il se marre un peu.
Ah oui.
Non, mais c'est vrai, t'as raison.
Mais c'est super rare.
Je crois qu'on cherche l'inutile.
Mais de toute façon, vous pouvez l'élargir également au niveau des joueurs, des entraîneurs et compagnie.
Oui, t'as raison.
Il n'y a quasiment plus personne qui sourit maintenant au monde du football.
Pas à la mode quand on fait des photos de footballeurs, il y a des mecs qui ne sourient pas. Ils font la gueule.
À notre époque, putain, qu'est-ce qu'on chambrait, on rigolait, on se prenait la tête, on s'engueulait.
Attends, les photos qui comptent, c'est les photos où tu fais la gueule.
Mais c'est le monde dans lequel on vit, c'est que de l'image.
Basse période, comme disait l'autre. Ouais.
Mais tu vas voir, ta vie va changer avec Insta.
Ouais.
Il paraît, ouais.
Sauf que. Bah, il paraît combien va regarder autant, mais excuse-moi. Mais
il va falloir quand même que je le mette sur mon portable, hein, parce que j'ai toujours.
Bah ouais, alors attends,
ça sert à quoi d'avoir Insta si tu vas pas sur mon portable.
Écoute. Ah, t'as des community managers.
3709.
Non, non, tous les jours, je suis avec la personne.
3710.
Non, 1710, mais t'as pris 1700.
Je suis arrivé, j'étais à 700 avant l'émission.
T'as pris 1000, ça va.
Moi, j'en ai pris quand même une petite centaine, là, grâce à toi.
C'est vrai.
Faut faire
je sais même pas comment
ça marche. Mais attends, on est tous sur Instagram, je vous signale.
Non, d'ailleurs, c'est quoi le tien, toi, Gilbert?
Gilbert Bribois.
Gilbert Bribois.
Mais on s'en fout au fond, non? Je sais pas pourquoi vous êtes arrêté.
Bah non, mais d'ailleurs, j'ai un message par Instagram, si nous écoute, hein, vous foutez de ma gueule que je paye un abonnement pour avoir la virgule officielle, alors que ça fait 2 mois que je vous envoie mes papiers, mes documents de mon passeport et compagnie. Bref, voilà.
Voilà, ça c'est le coup de gueule de Manu, voilà, ça.
Il
voilà.
s'est déjà embrouillé avec Insta. Magnifique. Mais je m'en fous de m'embrouiller avec Insta, j'en ai rien à foutre.
Mais tu es quand même.
J'y suis parce qu'ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. Mais au final, ils ont tellement eu besoin de nous au départ
que maintenant,
ils demandent aux gens de payer alors que c'est grâce à eux qu'ils ont fait leur richesse.
Manu, il cherche à être bloqué le jour où il ouvre son compte.
Mais bloquez-moi, je m'en branle. Bloquez-moi. Arrêtez de chauffer là. D'ailleurs, si vous voulez me bloquer, rajoutez votre nom sur la liste et faites la queue, prenez un ticket.
Je vais te dire qu'avec Elon Musk sur Twitter, là, pouf, t'aurais été bloqué.
Mais je m'en branle.
Ouais, oh, cagnotte ça. Deux fois.
Et toi, c'est plus cher.
Tu sais, c'est le Twitter comme les trois
frères. Non, c'est comme un insulte. Je te connais. Alors, je te connais, va. Envoyez-moi la pub.
En fait, c'est calculé sur les salaires.
Merci, Polo.
Provoque pas Manu, t'es complètement fou, quoi.
Merci, Polo. Merci, Fred.
Adios.
Polo, on se retrouve demain avec le Borussia. Et bah, justement,
tiens. Ouais, demain, il y a un match important.
Non, reste un peu. Reste un peu.
Pour le Borussia.
Ouais, pour le Borussia, tu lui donnes les infos de veille de match que t'as. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h49, Daniel Riolo est là, Manu Petit est là, et l'alerte, ben voilà, tiens, ça tombe. Vous avez 5 minutes pour envoyer PSG par SMS au 7-32-16 pour gagner les places pour PSG Dortmund mardi prochain avec en plus visite des locaux d'RMC. C'est cadeau, tentez votre chance dès maintenant. Polo Breitner toujours avec nous. Polo, je reçois un message sur Direct Studio d'Amaury qui me dit que gros mot en allemand se dit Schimpfwörter. Voilà.
Allô ?
On est content.
Schimpfwörter, Polo ?
Schimpfwort.
Voilà.
Schimpfwort.
Schlimpfen, en fait, c'est insulté.
Ah, d'accord. Ok.
Je vous donne la compo parisienne pour demain. Rien n'est moins sûr. Hein. Fabrice Hawkins nous envoie une compo avec quelques incertitudes.
Non, on va pas avoir pas de Kinder surprise demain soir.
Donnarumma dans les bus, ça c'est pas une surprise. Défense centrale, Marquinhos sûr, mais qui à côté de lui? Est-ce que ce sera Hernandez ou Beraldo? Incertitude.
Hein?
Attends, je continue. Hakimi va jouer. Et au poste de latéral, ça se joue. Alors, Hernandez va jouer, mais on ne sait pas si c'est latéral ou dans l'axe.
Ah oui, en fonction peut-être de l'état de forme de Mendes.
Voilà, ouais, c'est ça.
D'accord.
Exactement.
Et donc, il ne mettrait pas Danilo, il mettrait le petit moustachu.
Voilà, c'est ce que nous dit Fabrice Hawkins ce soir.
Vu les dernières références en Ligue des Champions.
Après, le reste de l'équipe, c'est l'équipe annoncée. Zaïre, Emery, Vitinha, Ruiz, Dembélé, Mbappé, Barcola.
D'accord. Okay. Voilà. Oui, donc on n'a pas réellement on n'a pas un Kinder surprise demain. On est sur du basique.
On va attendre derrière. Et moi, c'est surtout sur les côtés hein, que ça m'intéresse parce que le Dortmund a changé son côté gauche. Ils sont performants avec des joueurs en forme. Donc, les côtés vont être importants demain.
Polo, quelles sont les tendances à Dortmund?
Alors, il y a des bonnes nouvelles. Ils ont récupéré quasiment tous leurs joueurs, même tous leurs joueurs, à tel point que même Malen pourrait faire partie du groupe, alors qu'il était quasiment sûr qu'il était out à... hier, par exemple, ils ont récupéré Sabitzer qui sera là, Mats Hummels qui est sorti à la 50e minute ce week-end a été sera là aussi. Donc on s'attend en fait à Madsen à gauche évidemment. Emre Can était suspendu, donc Can et Madsen vont revenir. Donc ça sera du classique, mais on annonce un Marco Reus titulaire demain.
Ah ouais.
Ce qui serait une énorme surprise déjà parce qu'à
la place de qui?
Adeyemi qui est dramatique.
Ah.
Donc on aurait Sancho à droite. On ne sait pas comment ça va fonctionner avec Brandt. On pourrait le faire jouer évidemment avec Emre Can et Sabitzer. Et donc on aurait Marco Reus, qui serait une énorme surprise parce que lui et son coach Edin Terzic ne partiront pas dans vacances ensemble. Donc ce serait une énorme surprise qu'il soit titulaire demain, mais c'est ce qui semblerait être en train de se préparer.
Brandt, c'est plutôt fiable en général.
C'est quoi les retours après après la défaite de ce week-end?
Plus du tout dans le coup, ça n'existe plus.
Alors, ils étaient évidemment pas contents parce qu'ils se sont pris une belle volée.
Ils sont pris une gifle.
La seule excuse qu'on peut trouver, c'est qu'en ce moment, Leipzig marche sur l'eau et met 3-4 pions à tout le monde. Donc en Bundesliga, et même on pourrait reprendre d'ailleurs la rencontre contre le Real en 8e. Mais si tu veux, il y a beaucoup. Le problème du Borussia Dortmund, comme d'habitude, c'est que, enfin, je l'avais dit pour la qualification contre l'Atleti, c'est la qualification de l'intranquillité. Tu ne sais jamais quel Borussia Dortmund tu vas avoir sur le terrain, et donc je ne sais pas celui qu'on verra demain. Est-ce qu'ils sont en train de replonger ce qui serait la 25e fois depuis qu'Edin Terzic est arrivé en tant que coach? Mais ils ont une capacité de résilience qui fait qu'à chaque fois, eh ben, ils reviennent dans les compétitions et ils font des beaux matchs par la suite. Enfin, beaux matchs au sens ce qui est capable de faire
en Borussia Dortmund. En même temps, Polo, comme le dernier a été cata, on serait tenté de dire que celui-là devrait être bon.
Ben, la logique, c'est ça. Mais le problème, alors en plus, ils sont très forts à domicile, etc. Mais rappelons quand même qu'ils menaient 1-0 face à Leverkusen avant de prendre un but dans les arrêts de jeu. Mmh. Donc, il y a des choses comme ça. Alors, encore une fois, moi, je suis parisien. Le message que j'aimerais recevoir, c'est ne brûle pas tes vaisseaux lors du match aller. Le Borussia Dortmund n'est pas capable, même poussé par son public, de mettre le feu pendant 90 minutes et de jouer à un même niveau et un niveau constant pendant 90 minutes. Donc il faut, si tu veux, s'il y a un 1-1 là-bas, c'est bon, ça va passer pour Paris au match retour. Mais il faut pas se prendre une volée au Westfalenstadion. Évidemment, on a le droit de l'emporter, mais c'est pas la priorité des priorités.
J'aime quand Polo utilise le nom historique de ce stade.
Mmh. Bah oui.
Je peux pas le prononcer de la même manière, moi.
Tu peux essayer.
Je n'ai pas tout à fait le même accent, rien.
Mais Westfalen, c'est la Westphalie, c'est facile.
Oui, oui.
Le stadion de la Westphalie.
Voilà. On avait compris.
Alors juste quand même une petite enquête de Valentin Jamin qui nous explique que le Borussia Dortmund, les supporters en tout cas, sont dans une détestation absolue du PSG.
Bon, comme beaucoup de clubs en Europe. Hein.
Bah parce qu'ils disent nous on joue pas contre un club, on joue contre un État, c'est anormal. Et puis en plus ils dépensent l'oseille, ils gagnent rien, etc. Donc on attend qu'une chose, c'est les taper demain.
Bah tant mieux pour eux.
C'est le Bayern qui avait commencé ça.
Bah ouais, là, Dortmund.
C'est pas le Bayern, c'est pas Dortmund, c'est quasiment tous les clubs en Europe sont comme ça.
Et puis après, il y a un autre sujet, c'est le prix des billets, parce qu'en Allemagne, ouais, quand il y a des déplacements, bon, bah, c'est pas très cher pour les supporters, et au Parc des Princes, c'est très cher, donc les Allemands râlent. Voilà. Ça ajoute l'énervement.
Oui, enfin, faut rappeler que là où il y a le plus de monde dans les stades, c'est là où c'est le moins cher aussi. Il y a peut-être une raison de cause à effet, quoi. Mm.
Merci Polo, à demain.
Merci à vous.
Bonne soirée. Alors Luis Enrique, aujourd'hui en conférence de presse, on lui a dit, ouais, vous êtes favori? Il a dit, ah bon? Ah bah c'est bien la preuve que la presse comprend rien au foot.
De quoi?
Je te le refais. Luis Enrique, on lui a dit, vous êtes favori? Et lui a dit, ah bon? Ah bah c'est bien la preuve que la presse ne comprend rien au foot. Bon, c'était un peu second degré. Hein.
Non, mais oui.
Voilà.
En même temps, il n'a pas tort, hein, parce que...
Ah, sur le fait d'être favori?
Bah évidemment. Pourquoi? Parce que tu te bases. Dortmund a fini premier dans la poule devant le Paris Saint-Germain.
Oui, bon, t'as le match retour à la maison, tu regardes la dynamique un peu du moment.
Mais en quoi tu peux dire que le PSG est favori en demi-finale contre Dortmund?
Je t'avoue que je vous ai donné cette information juste principalement par rapport à la réaction de Luis Enrique.
Mais je comprends, mais complètement la réponse de Luis Enrique.
Sinon, il nous reste 2 minutes 30. J'ai quelques infos à vous donner. Pablo Longoria donne une interview à la Gazzetta dello Sport.
Il a promis le feu.
Bah, pas trop, non.
Bah si, il a promis le feu à l'Atalanta, au Salvelodrome.
Ah oui, non, mais ça, bon, classique. Non, mais il a parlé d'Allegri.
Il a dit qu'ils allaient vivre en enfer.
Il a parlé d'Allegri, parce que je ne sais pas d'où est sortie la possibilité qu'Allegri vienne à Marseille.
Ah bon, là, c'est... Alors, voilà, peu... s'ils veulent s'enfoncer, là, c'est encore...
Mais bon, de toute façon, il l'a évacué tout de suite. Hein. Il a dit non. De toute façon, c'est trop cher.
C'est même pas question que c'est trop cher. Je veux dire, un entraîneur aujourd'hui réfléchit à deux fois avant de venir à l'OM. Regarde ce qui se passe sur le banc de touche depuis 2 ans.
Exactement. Et puis, il a ajouté que si Correa restait à Marseille, ça signifierait que l'OM remporterait la Ligue Europa, puisque la clause veut que Correa reste si l'OM joue la Ligue des Champions l'année prochaine. Bon, via le championnat, c'est compliqué, là. Donc, ça ne peut être qu'une victoire en Coupe d'Europe. Fédé, on apprend ce soir que la Fédération Française de Foot a re-signé avec Nike. Vous savez qu'il y avait une incertitude. On n'a pas le montant, hein, mais ça doit être un montant conséquent. Mm-hmm. Ils ont re-signé jusqu'en 2034.
Je te le dirai
avec Nike.
Je te le dirai
2034.
Demain, tu m'y fais penser,
2034.
Mais on est en quoi, là?
2024.
10 ans.
10 ans. Ils ont signé.
Donc, ils ont dû, justement, ils ont lissé sur plusieurs années. Donc, ils ont dû monter le tarif à 55, par là, 55-60.
Peut-être. Ouais.
Donc ils font des contrats vraiment à longue durée maintenant.
Exactement, au niveau, ça se fait la Ligue est fait pour les joueurs, ça se fait pour, ça permet, ça fait gonfler
je
les sommes.
Je sais pas, enfin moi en ce qui me concerne, imagine l'équipe de France gagne l'Euro et regagne encore un mondial, je veux dire ça se renégocie ces tarifs-là.
Bah, oui, il y a des clauses de renégociation, c'est possible.
Ouais.
Et puis alors Hubert Fournier s'est couché devant Didier Deschamps. Vous avez vu?
Ah bah il s'est pas couché.
Par rapport à la pique qu'il lui avait envoyé.
Il avait été repris de volée par Deschamps parce qu'il avait osé émettre l'hypothèse que bon, une finale de tir, de Coupe du Monde au tir au but, mal géré, ça se travaillait peut-être un petit peu. Il avait soumis l'idée d'un travail de fond à la Fédé sur les tirs au but. Deschamps l'avait repris de volée. Bah là, aujourd'hui, il a été obligé de s'excuser platement.
Sérieux?
Il a dit, je fais mon mea culpa. Je ne suis pas le plus grand communicant. On s'est mépris sur mes propos. Je n'étais pas en train de dire à Deschamps et à ses équipes comment il
était dans son rôle.
On s'est expliqué cette histoire et il a
il ne va pas plus loin, Gilbert, il s'est transformé en serpillière, c'est
bah
tout.
Oui. Quoi. Et il ajoute Didier, c'est le plus grand sélectionneur de l'histoire du football
attends,
français.
Attends, il était dans son rôle quand même. Bah,
il a dans son rôle de quoi?
Il
était sorti de son rôle de larbin, donc il est retourné larbin.
Oui, voilà, d'accord, tout. Mais dans son rôle, dans
couché,
sa mission.
Mais non, mais il n'y a pas de mission DTN, c'est vraiment dire, c'est un emploi fictif.
Non, mais surtout, moi, je pensais que DTN, c'est
Hubert Fournier.
J'en suis convaincu, Daniel.
Il est dans la liste, on fera ça dans une
des soirées prochaines. Mais j'ai même fait des livres là-dessus.
Les emplois fictifs du football, il est dedans.
Ah ouais. D'ailleurs, c'est quand? C'est au mois de décembre, les élections?
Lesquelles?
La FFF.
Bah, ouais. Après les JO, donc oui, ça va être vers décembre.
Parce que ce matin, il y a un grand reporter de l'équipe qui m'a appelé pour savoir si c'était vrai la rumeur. J'ai dit quelle rumeur? Comme quoi, éventuellement, tu serais peut-être intéressé ou des mecs de 98 intéressés.
Quoi? Alors, je présentais.
Alors je lui dis, tu sais, les rumeurs, hein, ça sort de nulle part et souvent ça finit nulle part.
Très bien. Donc du coup, on en a pas parlé.
Non.
C'est fini. N'oubliez pas deux choses, que le prochain spectacle de l'After remonte le temps, sera programmé le 11 octobre prochain à la salle Pleyel. Vous pouvez vous procurer vos billets. Il en reste
des spectacles maintenant.
Faites vite parce qu'après il y en aura plus.
Ils étaient pas au courant, lui.
Non, bah non, je suis pas au courant.
Des fois, Manu,
bah, tu sais quoi, Manu,
c'est
pas que je suis sur une autre planète. Non seulement.
J'ai
pas souvent fait l'After avec vous.
T'inquiète pas, oui. On va te transformer en acteur. Tu
mais c'est à dire que là, vous.
Est-ce que tu veux qu'on fasse de toi une star?
Mais.
Et ça va être autre chose.
Non, mais métro.
Ça va être autre chose que quand tu mangeais tes petits nus dans la pub.
Il faut savoir que Manu Petit est le seul champion du monde 90 qui prend le métro.
Donc si j'ai bien compris, ouais, bah, je prends très souvent le métro.
Et il mange des petits lus.
Je te félicite, Manu. Des tucs.
Pourquoi? C'est pas bien de prendre le métro.
Pas des petits lus que tu mangeais, toi?
Non, revenez.
Donc on va refaire le Join Star. Tu pourras plus prendre le métro.
Mais ça veut dire quoi? Vous allez
sur scène, dans un spectacle, dans un.
Ok. Oh là là. Voilà. Et je pensais que c'était une parodie même de votre émission, non?
Ouais, c'est aussi ça.
On se parodie nous-mêmes.
On rigole bien, quoi.
Voilà. Ok, super. Voilà. Sinon, ça va?
Tout va bien.
Et puis l'after.media pour la revue de l'after. Okay. Toujours disponible, Manu, si tu veux t'abonner. C'est pas cher. 30,90€ par mois. Allez, à demain soir. On sera là dès 20h avec la grande soirée PSG. On ira jusqu'à 1h du matin avec la Libre Antenne.
Bonne nuit, tout le monde. À demain.
RMC, l'after foot.